20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est avec Alexandre Bloch que nous échangerons quelques mots ce soir pour clore cette journée spéciale Orchestre National de Lille sur notre antenne. Alexandre Bloch, le directeur musical de l'orchestre, qui nous racontera dans quel état d'esprit il aborde cette rentrée si particulière avec ses musiciens, alors que sort son tout nouvel enregistrement consacré à la 7e symphonie de Mahler. Et puis comme tous les jeudis, nous voyagerons avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, un voyage virtuel, faute de pouvoir le concrétiser en raison des mesures sanitaires, un voyage virtuel au Wigmore Hall de Londres. Mais pour commencer notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité, l'annonce est tombée hier et a sidéré le monde musical. Le Metropolitan Opera de New York a tout simplement annulé l'intégralité de la saison 2020-2021, ne prévoyant un retour de ses activités que dans un délai de 5 à 6 mois après la mise à disposition d'un vaccin. Nous souhaitons plus que tout, créer à nouveau la magie de l'opéra comme seul le Met le peut, mais la sécurité de notre entreprise et du public que nous servons est notre priorité, a déclaré son directeur Peter Gelb. Des éléments du programme de la saison suivante ont également été dévoilés à l'occasion de cette annonce. Pour tout savoir, je vous invite à lire l'article de Philippe Gau publié sur le site de Radio Classique. Des nouvelles plus positives de l'opéra de Rouen-Normandie qui fait sa rentrée ce week-end avec Tannhäuser de Wagner, une production confiée au metteur en scène David Bobet qui a choisi l'angle de la religion, imaginant le Vénusberg comme le refuge des dieux exilés de leur patrie alors que s'impose le christianisme dans cette idée d'une religion qui viendrait en remplacer une autre. Sur scène, Stefan Winke en Tannhäuser et Catherine Hunold qui chantera les deux personnages féminins d'Elisabeth et de Vénus. Quant à l'orchestre, il ne sera pas en fosse pour cause de contraintes de distanciation sanitaire, mais installé au parterre grâce à une structure conçue pour l'occasion qui permettra en outre de le couvrir. Une production, nouvelle production de Tannhäuser à découvrir dès dimanche et jusqu'au 3 octobre à l'Opéra de Rouen, Normandie. À noter que la représentation du 3 octobre sera retransmise sur grand écran en plein air à Rouen, place de la cathédrale, mais aussi à la scène musicale de Boulogne-Billancourt, ainsi que dans de nombreux cinémas de la région Normandie.
Laure Maison sur Radio Classique.
C'est le fruit de tout un travail d'atelier d'écriture et de création artistique avec des détenus du centre pénitentiaire de Meaux, mais également des résidents d'EHPAD, des malades hospitalisés et des personnes recueillies en centre d'hébergement qui sera dévoilé vendredi soir au MC 93 à Bobigny, la maison de la culture de Seine-Saint-Denis. Un spectacle qui réunira les acteurs de ce projet Watch, à savoir des musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris et la pianiste Shani Di Luca, avec la complicité pour la conception, l'écriture et la mise en scène d'Olivier Fretsch. Un spectacle d'un peu plus d'une heure conçu sur une réflexion autour du temps par le prisme de la musique de Schubert.
Thank you.
valse sentimentale de Schubert sous les doigts de Shani Di Luca. Shani Di Luca qui participera donc à ce spectacle intitulé Voyage d'hiver avec des musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris vendredi soir à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny. Spectacle qui est donc le fruit de ce projet Watch mené par Shani Di Luca avec des musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris.
Le journal du classique sur Radio Classique.
L'Orchestre National de Lille fait donc sa rentrée cette semaine avec son directeur musical Alexandre Bloch. 3 concerts ce soir et demain soir à Lille et puis samedi à Valenciennes. Alors dans quel état d'esprit Alexandre Bloch aborde-t-il cette rentrée ? Pas comme les autres ? C'est la première question que je lui ai posée lorsque j'ai pu le joindre avant-hier par téléphone, juste après sa répétition à Lille. On l'écoute.
Bah en fait, on a hâte de retrouver le public, on a hâte de retrouver le spectacle vivant hein, qui nous a manqué quand même pendant tous ces mois. Alors bon, on n'était pas restés les bras croisés à l'Orchestre National de Lille, puisque évidemment, post-confinement, on avait fait beaucoup de concerts en streaming. On avait aussi un concert qui a fini la saison le 14 juillet dernier. Mais là, c'est vraiment la rentrée. On voit que le public est enthousiaste pour nous retrouver, puisqu'il y a de longues queues d'attente à l'ouverture de la billetterie le 1er septembre, que le public était nombreux vendredi dernier lors de notre soirée de présentation de saison. Et évidemment, le public sait que nous ne pouvons ouvrir qu'à peu près le tiers de la salle, à peu près 600 places. Mais voilà, on a eu l'occasion de rajouter aussi quelques concerts comme le 30 septembre prochain. Et puis, en fait, on a ouvert la billetterie de 2 mois en 2 mois et demi, en fait, de manière à pouvoir s'adapter à chaque fois à la situation sanitaire qui évolue tout le temps.
Alors, vous avez déjà été confronté, Alexandre Bloch, à un changement de soliste, puisque Nemanja Radulović a été testé positif au coronavirus. Il sera donc remplacé par le merveilleux violoncelliste Edgar Moreau. Tous ces changements, ces ajustements, il va falloir vous y habituer quelque part maintenant, puisque vous ne serez pas à la merci d'autres annulations pour des raisons de voyage ou de virus.
C'est exactement ça. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec une situation qui est peut-être pas l'idéal. Qu'on aurait bien aimé les différentes, mais voilà, des surprises, il y en aura, que ce soit pour les artistes invités, pour aussi nos musiciens. On a eu un cas de Covid en tout début de saison, justement, sur la première série d'un musicien Vent, d'ailleurs, qui a été positif et qui était venu quand les symptômes commençaient à apparaître. Et je pense que c'est aussi chouette de pouvoir dire qu'aucun des musiciens autour, aussi Vent ou Corde, n'ont été touchés et n'ont été contaminés. Donc, bon, il va très bien ce musicien, il n'y a pas de problème. Mais ça veut aussi dire que les distances de sécurité que nous avons demandé d'observer de la part de nos musiciens sont respectées par nos musiciens et fonctionnent. Donc, évidemment, voilà, il faut un peu être réactif et être flexible toutes les semaines. Et on a évidemment aussi adapté les programmes de ce début de saison en conséquence. Hein. On ouvre en fanfare avec justement une fanfare de Copland, Fanfare for the Common Man, avec les cuivres et les percussions. Et puis, un petit orchestre de chambre pour accompagner justement Edgar Moreau dans ce concerto pour violoncelle en do de Haydn. Et ensuite, ce sera au tour des cordes de jouer avec moi le divertimento pour cordes de Bartok. Donc vous voyez, on utilise aussi la situation pour faire des petits ensembles, pour aussi faire des groupes d'instruments et travailler aussi en profondeur des répertoires peut-être qu'on aurait moins programmés en étant normaux.
Thank you.
La saison passée de l'Orchestre National de Lille a été marquée, Alexandre Bloch, par la fin de votre grande Odyssée malérienne. D'ailleurs, vient de paraître chez Alpha votre enregistrement de la 7e symphonie. Alors, avant de parler des futurs projets que vous allez développer avec l'orchestre, un mot sur cette Odyssée malérienne. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté à vous en tant que chef et à vos musiciens ?
Moi, en tant que chef, c'est un peu le Graal hein, de faire surtout l'intégralité des symphonies de Mahler. C'est assez exceptionnel et surtout pour un chef de mon âge, je suis plus que reconnaissant d'avoir eu la chance de faire ça avec un orchestre exceptionnel. Et ça a permis aussi de souder un petit peu plus, même encore plus, justement la relation que les musiciens ont entre eux dans un répertoire qui est très exigeant, qui met en valeur l'orchestre et tous les pupitres de l'orchestre, mais qui est très exigeant. Et puis aussi de développer, de travailler aussi du coup en profondeur encore plus ce qu'on avait fait avec pendant ces symphonies de Mahler, en faisant des partiels, en allant vraiment chercher des sons, des manières de jouer et des manières de se comprendre. Vous savez que ce sont des symphonies qui en général sont assez longues, qui durent une heure et demie. Et c'est vrai que on n'a pas le temps de tout régler lors des répétitions. On a quand même pris le temps de faire des répétitions un peu plus longues que d'habitude, de manière à vraiment aller en profondeur. Mais on a aussi développé une manière de travailler, une manière d'arriver aussi à la première répétition. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis fier de l'orchestre. Les premières répétitions ont drastiquement changé, en fait, à l'Orchestre National de Lille. Je trouve les musiciens, je ne sais pas si c'est plus préparé ou simplement plus attentif et plus alerte au moment des premières répétitions, ce qui permet d'aller plus en profondeur. Je l'ai encore expérimenté cette semaine avec le fameux Divertimento de Bartok, qui est vraiment une pièce assez de challenge pour les cordes et qui s'est très vite montée à l'orchestre. Puis en ce qui concerne l'enregistrement de la 7e symphonie de Mahler chez Alpha Classique, c'est un peu chauvin de dire que je suis très fier de l'enregistrement, mais honnêtement, j'en suis vraiment fier. On avait fait de très beaux concerts avec, mais également l'enregistrement s'était très bien passé. J'ai eu la possibilité aussi de bien travailler avec l'ingé son sur les couleurs du mix qu'on voulait vraiment faire rendre pour donner ces couleurs à cette partition parfois méconnue. C'est une symphonie qui est moins jouée de Mahler et pourtant c'est en tout cas aux yeux de Mahler celle qui préférait. Donc du coup rendre justice au compositeur et d'enregistrer cette belle symphonie que moi je me suis réécouté hier depuis j'avais pas entendu ça depuis 6 mois et j'ai écouté ça en cuisinant et c'était un grand bonheur.
C'est un grand bonheur pour nous aussi d'écouter cet enregistrement qui vient de paraître chez Alpha. Alors, la précédente saison et celle d'avant de l'Orchestre National de Lille, ces saisons étaient plutôt mahlériennes. Cette nouvelle saison qui commence cette semaine s'annonce épique. C'est ce que vous nous annoncez, en tout cas Alexandre Bloch. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme d'épique ?
Le thème du héros regroupe quand même pas mal de choses dans la musique classique et vous verrez qu'aussi ça va aller dans le prolongement de ce que nous... il y aura un prolongement dans les prochaines saisons aussi. Donc on a un peu pensé aussi sur plusieurs saisons, un programme que vous découvrirez l'année prochaine. Mais en ce qui concerne cette année, pour les héros, vous verrez évidemment une vie de héros de Strauss, la symphonie héroïque de Beethoven ou encore la symphonie fantastique de Berlioz dont le compositeur lui-même est le héros de sa symphonie. Mais je pense que il faut être vraiment héroïque dans les temps d'aujourd'hui pour arriver à ouvrir une saison et à accueillir du public dans des salles, dans des conditions qui sont vraiment assez compliquées. Mais je crois que justement l'équipe de l'Orchestre National de Lille est assez héroïque de relever chaque jour les défis que nous impose cette situation sanitaire assez exceptionnelle.
Et comment les musiciens de l'orchestre ont-ils surmonté cette crise ? Comment abordent-ils cette rentrée ? Alors, vous avez déjà joué ensemble, très tôt d'ailleurs, après le confinement, d'abord à huis clos, dans le cadre de l'édition digitale du Lille Piano Festival. Vous avez donné plusieurs concerts. Comment sont-ils sortis de cette épreuve, Alexandre Bloch ?
Je pense qu'il ne faut pas négliger l'impact psychologique et sociale que cette crise a eu chez tout le monde, chez toute notre population, que ce soit en Hauts-de-France, en France ou dans le monde, dans tous les domaines, pas que en musique. Mais donc, du coup, en ce qui concerne en musique, c'est important d'être à l'écoute, en tout cas, des problèmes que ça a pu générer. Pour certains, ça a été une remise en question aussi de savoir est-ce que c'est vraiment le métier que je veux faire ? Est-ce que je veux continuer dans cette carrière ? Est-ce que pour moi, c'est le moment de m'arrêter ? Est-ce que finalement, je suis content ? J'étais proche de la retraite et c'est le moment de s'arrêter ? Enfin, j'ai entendu beaucoup de choses, pas forcément dans mon orchestre, mais aussi à droite, à gauche, et j'ai vu qu'il y a eu du coup ce changement d'attitude. Pour certains, c'était le bouillonnement de pouvoir rejouer enfin ensemble, aussi devant un public. Et en tout cas, c'est mon cas aussi. On attend beaucoup des concerts de cette semaine.
Mais on se réjouit de vous retrouver, Alexandre Bloch, avec vos musiciens de l'Orchestre National de Lille, à Lille, mais aussi à Valenciennes, où vous jouerez samedi, puisque vous allez continuer à irriguer tout le territoire.
Tout à fait.
Merci infiniment, on vous souhaite une très belle rentrée et on vous dit à très bientôt sur l'antenne de Radio Classique. Merci beaucoup.
Merci Laure, à bientôt.
un extrait du poème « De l'amour et de la mer » de Chausson par Véronique Jans et l'Orchestre National de Lille, dirigé par Alexandre Bloch. Alexandre Bloch retrouvera justement Véronique Jans cette saison à Lille. Ce sera au mois de janvier pour un programme de musique française autour de pages de Fauré, Debussy et Poulenc. L'un des moments forts de cette nouvelle saison de l'Orchestre National de Lille qui débute donc ce soir.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Nous partons à Londres avec vous au Wigmore Hall, un voyage par écran interposé.
Exactement. Ce n'est pas la première fois que j'évoque à votre micro, ma chère Laure, ce merveilleux Wigmore Hall londonien, ce temple de la musique de chambre, dont la programmation est l'une des plus riches au monde en quantité et aussi en qualité, du baroque au contemporain, des jeunes espoirs de la scène musicale britannique essentiellement, mais pas que, aux gloires internationales du circuit classique. Durant le confinement, il y a quelques mois, le Wigmore Hall fut rapidement à l'initiative de propositions numériques qui permettaient aux mélomanes de rester en contact avec les artistes, et réciproquement, grâce à des concerts enregistrés dans la salle, sans public alors, mais proche le plus possible des conditions d'un véritable récital. Et depuis la rentrée, et toujours gratuitement, c'est à signaler, le Wigmore Hall continue à nous donner rendez-vous très régulièrement sur son site internet, et même si nous préférons la musique vivante qui reprend heureusement peu à peu ses droits, il faut avouer qu'il y a là de véritables pépites qui ne se refusent pas, et ce sont 100 concerts au total capté en live jusqu'au 22 décembre prochain. Donc une foison de festival. Je ne vous étonnerai pas en vous disant combien j'ai vibré tout récemment, on peut encore l'entendre, en écoutant le récital du baryton Christian Gerhaher et de son indéfectible complice, le pianiste Gerold Huber. Je vous vois rire, vous avez raison. Dans un programme Schubert-Albanberg d'une intensité poétique et émotionnelle, en plus de la leçon de chant de cet artiste, qui traversait sans peine l'écran d'ordinateur.
Alors, quels musiciens seront au programme de ces prochains jours ?
Alors, attendu prochainement en effet, ou dont les prestations restent encore accessibles sur le site du Wigmore Hall, eh bien, par exemple, le violoncelliste Jean-Guyenne Queyras, la soprano Caroline Samson, le duo Gauthier-Capuçon-Franck Bralet, la pianiste canadienne Angela Hewitt, qui est tellement adoré du public et de la presse britannique qu'on entend peu en France, donc ce sera une occasion de l'entendre dans Bach, son compositeur fétiche dans l'art de la fugue de Bach. Et puis ce samedi 26 septembre, je vais plus vite que la musique, le baryton Gerald Findlay, qui sera accompagné par Julius Drake au piano. Alors menu des mélodies françaises, signé Fauré et Duparc. On sait que Gerald Findlay a une connaissance et une prononciation du français merveilleuse, mais aussi de la musique américaine, avec notamment des mélodies de Samuel Barber. Alors, Gerald Findlay, qui a été aussi l'une des stars qui a beaucoup donné de lui-même virtuellement lors des concerts organisés par le Covent Garden, si nous voulons rester à Londres pendant le confinement, est un musicien vraiment exceptionnel qui n'est peut-être pas tout à fait assez familier des auditeurs français, il ne vient pas très souvent nous voir. Il excelle aussi bien dans Mozart que dans Verdi, son Iago dans Othello vous fait froid dans le dos, mais aussi dans Janáček, comme en témoigne sa prestation dans un récent enregistrement de la petite Renarde rusée de Janáček, ce merveilleux opéra, enregistré donc tout récemment sous la direction de Sir Simon Rattle. Mais Gerald Findlay, c'est aussi un formidable mélodiste, comme on va s'en rendre compte au Wigmore Hall, engagé, spirituel, maître d'une technique si assurée qu'elle se fait oublier derrière beaucoup de naturel. Et puis c'est ce timbre chaud, profond, mais toujours lumineux, sur lequel les années ne semblent avoir aucune prise. Alors on n'a plus qu'à se réapprovisionner en thé, à s'installer dans un fauteuil bien confortable, à allumer son ordinateur et à partir virtuellement pour Londres et pour le Wigmore Hall.
Imagine a vain thing. Why do the nations rage? The nations so furiously raged together, and why do the people, and why do the people imagine a vain thing? Why do the nations rage so furiously together, so furiously together? And why do the people imagine a vain thing? Imagine a vain thing. And why do the people imagine a vain thing?
C'est dans l'air « Why do the nation » tiré du Messie de Handel que l'on écoutait ici Gérald Finlay avec le Concertus Musicus de Vienne dirigé par Nikolaus Harnoncourt. Merci beaucoup Emmanuel pour cette visite virtuelle au Wigmore Hall de Londres.
Merci Laure.
Et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage. Demain, nous serons en compagnie du pianiste David Frayne qui nous dira quelques mots sur ce festival qu'il vient de créer et qui se déploiera cet été. Un festival de musique centré sur la cause du handicap. Merci beaucoup à Bertrand Dorini pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.